Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV, les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h41 et c'est le dernier S1M de la semaine.
Et on coupe ?
Non, je coupe pas.
Vous êtes en direct, allez-y.
Alors voilà, on vous parle de fiction ce matin. Un téléfilm qui nous a fait penser à David Lynch. C'est pas mal pour un premier film.
Ah, ça démarre
c'est
bien là,
c'est bien.
Ça démarre très bien.
Une errance, un traumatisme, une violence et des souvenirs qui rongent, sans mots, sans explication, pendant un temps très long, qui n'est pas pourtant le temps de la télévision. C'est une expérience de la durée que propose ce soir Arte. Un temps étiré, un temps très chargé, bien que muet, un temps de la conscience, un temps qui deviendra action lorsque la parole aura pu dire le passé. Ce film aiguille les flashbacks, il aurait pu s'intituler « Retour vers le présent ».
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Il s'appelle pas du tout « Retour vers le présent » ce film, il s'appelle « Jonas ». Bonjour Christophe Charrier.
Bonjour Sonia de Villers.
Jonas, donc c'est ce soir sur Arte, meilleur téléfilm, meilleure réalisation, meilleure musique, signé Alex Baupin au Festival de La Rochelle. Voilà, on va en parler dans un instant. Bruno Donnet est avec nous comme chaque vendredi. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Tout va bien ?
Très bien, je vais vous parler de temps moi aussi.
Voilà, une semaine médiatique qui déconstruit les interviews de TF1 ce matin. Sinon, bah voilà, comme tous les vendredis, une petite madeleine, on joue... Je ne peux pas vous dire, comme d'habitude. Normalement, je commence par ça. Mais là, je ne peux pas vous dire le cadeau que je vous réserve, sinon je vous mets un peu trop sur la voie. En revanche, je vous redonne l'adresse mail, l'instantm@radiofrance.com. Et voici ma question. Denise Glaser a animé pendant 16 ans Discorama à l'ORTF. Interview télévisée d'artistes. Un de ses invités, un jour, rend hommage à son travail. Il était chanteur. Qui était-il ?
Je trouve que vous avez beaucoup de courage, en tout cas, de tenir comme ça une émission. Autant que je me souvienne, vous avez le talent de mettre les gens, non pas en valeur, mais en situation.
Mettre les gens en situation. Qui était ce chanteur rendant hommage à une animatrice de télévision dans les années 60 ? L'instant M, à radiofrance.com. J'en profite pour vous dire que cette adresse, l'instant M, à radiofrance.com, est la vôtre. Qu'on y lit des messages formidables et des critiques qui nous font avancer. Tout ne passe pas par Twitter. Hein. Voilà, on peut encore écrire des mails, on peut même écrire des lettres sur du papier et on les lit. Mardi, par exemple, après l'émission avec le documentariste Éric Guéret et son travail sur l'enfance abusée, vous nous avez envoyé des messages qu'on n'oubliera jamais. Vraiment, on n'oubliera jamais. Alors, cher Bruno, lundi soir, vous êtes tombé sur Laurent Wauquiez dans le 20h de TF1 et vous nous dites ce matin qu'en matière d'interview politique, la gestion du temps, puisque c'est notre sujet ce matin, est devenue un paramètre hautement stratégique.
Oui Sonia, pour une raison simple, faute de temps, interviewer un politique à la télé est devenu un exercice infiniment compliqué. Ça ne vous aura pas échappé, sur les grandes chaînes, le temps dévolu à la parole politique est de plus en plus court. Lundi, par exemple, Laurent Wauquiez ne sera resté que 4 minutes et 58 secondes sur le plateau de TF1. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que convaincus qu'elles sont que la politique n'intéresse plus personne, les chaînes généralistes ont inventé des stratégies pour réduire ce temps-là, pour le packager et même pour le marketer. Ainsi, si Gilles Boulot a commencé son entretien par ces mots...
Je voudrais vous poser ce soir trois questions.
C'est parce que le cadre, l'espace dans lequel intervenait Laurent Wauquiez porte un nom, celui d'une rubrique qui s'intitule « Trois questions A », sous-entendu « Vous barrez pas les gars, ce sera pas long ». Lundi soir donc, l'homme à la parka rouge était invité pour causer... Gilet jaune, trois questions, cinq minutes, il fallait faire vite, avoir un angle serré, impossible donc de lui parler d'autre chose que du mouvement de contestation qu'il soutient. Et pourtant, 24 heures plus tôt, en plein rassemblement devant des militants de Sens Commun, Wauquiez venait de commettre un raccourci pour le moins scabreux, puisqu'au sujet de la procréation médicalement assistée, il n'avait pas hésité à nous balancer ça.
Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme.
Allons bon, nazisme, rien de moins, seulement voilà, 24 heures plus tard, faute de temps, pas une question ne lui a été posée sur cette sortie pourtant tonitruante. Alors ceci posé, ça n'a pas empêché Gilles Boulot de mener une excellente interview, puisqu'au moment de cette toute dernière question, la troisième, il a très méticuleusement coincé Wauquiez en lui demandant ceci.
Parmi les ardents défenseurs d'une taxe carbone et donc d'une augmentation du prix des carburants, un responsable politique a prononcé la phrase suivante. Le but est de passer d'un système de fiscalité pénalisant l'emploi à un système de fiscalité pénalisant la pollution. Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase ?
Voilà, à ce moment-là, Laurent Wauquiez l'a regardé tel le lapin pris dans les phares d'une bagnole et Boulot lui a dit...
C'est vous en 2009.
En d'autres termes, Gilles Boulot a mis en évidence, archives et déclarations à l'appui, que le leader républicain avait très opportunément retourné sa veste et qu'il critiquait, aujourd'hui, des mesures dont il réclamait la mise en place urgente il y a 9 ans. Seulement voilà, là encore, le temps est venu jouer les troubles faits. Parfaitement conscient que Gilles Boulot était arrivé au terme de ces 3 questions et sachant donc très bien qu'il n'y aurait plus de relance, Wauquiez s'est alors mis à jouer la montre. Il n'a aucun moment cherché à justifier la contradiction qui venait de lui être mise sous le nez et il s'est contenté de dérouler très tranquillement l'argumentaire qu'il avait préparé. Il a dit...
Le problème, c'est toutes ces taxes.
Puis il a rajouté...
Vous vous rendez compte de toutes les taxes qui ont augmenté ?
Avant de conclure...
Trop, c'est trop.
Alors ce petit épisode, Sonia pose pour les intervieweurs politiques 2 questions absolument majeures. D'abord, celle de l'opiniâtreté. Peut-on considérer que dès lors qu'on a posé une question qui fâche, on a suffisamment travaillé ? Ou bien faut-il la reposer et faire remarquer qu'on n'a pas obtenu de réponse ? Et puis bien sûr, celle de la stratégie. Vous connaissez la locution latine, in coda venenum, dans la queue, le venin, qui veut que pour être efficace, l'estocade doit être portée à la fin, car en des temps où l'on ne dispose plus que de 3 questions pour convaincre, pas sûr qu'elle soit encore valide.
Merci Bruno Donnet. À réécouter sur franceinter.fr, nous avons un gagnant, c'est Raymond. Bravo Raymond, il fallait reconnaître la voix de Léo Ferré et non pas, comme vous êtes nombreux à nous avoir répondu, de Reggiani, de Montand ou de Nougaro. C'était donc Léo Ferré. Allez hop, 3 questions à Christophe Charrier. 3 questions donc.
L'instant M. C'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Qui était Jonas dans la Bible, Christophe Charrier?
C'est une super question pour démarrer. C'est mon petit frère qui m'a dit ça. Je crois que c'est le personnage qui échappe pas à son destin, c'est ça. Mais en fait, oui, parce qu'on m'a beaucoup posé la question en promo. Pourquoi vous l'avez appelé Jonas? Est-ce qu'il y a un sens et tout? Et en fait, pas du tout. Donc en fait, on n'a pas arrêté de me dire, mais pourquoi ça s'appelle comme ça?
Ça, c'est le problème, c'est quand on regarde un film sur Arte, on se dit, il y a un sens.
Oui, il y a plein de gens en voyant le film qui cherchent des sens. Même il y a Félix Marito porte un moment dans le film un pull avec
c'est
un code derrière.
C'est
l'acteur qui joue Jonas adulte. Oui. Et on me demande, mais c'est quoi ce code? Ça veut dire quoi? Et rien, c'est juste un super chouette stylisme, mais c'est tout. Et Jonas, c'est ça donc, je me suis pas trompé.
Jonas, allez, on continue. Première séquence absolument saisissante.
Ouvre-moi, Jonas! Jonas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il arrive, s'il te plaît, ouvre! Jonas, Jonas, putain!
Voilà, ouverture de Jonas à voir ce soir sur Arte. Et puis, le film plonge dans une sorte de dépression léthargique. Ce qui est absolument pas une critique de ma part. Parce que c'est un personnage qui s'abîme, que vous suivez, et qui s'abîme à tous les sens du terme. C'est un personnage qui se fait mal. C'est un personnage qui tombe. C'est un personnage qui s'abîme aussi dans le passé. Et ça, il fallait aller jusqu'au bout de ce processus, qui est un processus qui ne peut se dérouler que dans la durée, Christophe Charrier.
Bah oui, tout à fait. Enfin, on voit Jonas à 2 époques de sa vie, adulte, donc joué par Félix Marito, adolescent par Nicolas Bowens. Et je suis d'accord avec vous, c'est un personnage abîmé, c'est un peu, c'est un crash test, en fait, Jonas, quand on est dans le présent, en tout cas le monde adulte. Et quand il est enfant, au contraire, on est dans quelque chose de plus solaire, plus enjoué, un premier amour, une découverte, et surtout une envie d'aller se frotter à des choses un peu interdites. Et après, en effet, on va découvrir... Le but du film, en fait, c'est un puzzle. C'est juste qu'entre les 2 époques, on va découvrir l'événement traumatique, ou en tout cas ce qui a fait que...
Vous savez que c'est extrêmement difficile de vous interviewer ce matin, Christophe Charrier, parce que en fait, il se passe très très peu de choses pendant 1 heure dans ce film. Et puis d'un seul coup, tout prend corps. Alors si je vous pose des questions sur ce qui fait que tout prend corps, je ruine totalement la construction du film et le suspense qui va avec, car il y a suspense. Si je ne parle que de ce moment, de ce long moment où le personnage s'abîme et où il erre, parce que c'est une errance, et c'est une errance très américaine, c'est une errance urbaine, c'est une errance psychologique, et les 2 vont ensemble, on a l'impression qu'on ne peut parler de rien et qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a rien de ce film. Or, pas du tout.
Alors déjà, je suis désolé de vous mettre dans cette situation-là. Ça m'ennuie beaucoup pour vous. Mais non, moi, je pense qu'au contraire, dès le début, il se passe, en effet, la première scène, vous l'avez dit, j'ai essayé de la faire très choc.
C'est
ou
un
en tout cas,
point.
De la d'arriver à capter l'attention du spectateur. Et je pense qu'après, même à travers des déambulations, même à travers des scènes de repas, par la mise en scène, par les acteurs, par le son, la musique d'Alex Baupin, on capte l'attention. Enfin, c'est le pari que je me suis lancé. Après, on verra si c'est tenu ou pas. Enfin, ce que les gens nous diront. Mais moi, je suis plutôt, j'ai plutôt tendance à croire que même cette premier trois quarts d'heure, parce qu'en fait, le film, il est presque en deux fois 45 minutes. Au bout de 45 minutes, de nouveaux personnages arrivent et le film prend une autre route. Ces premières 45 minutes-là, elles posent des bases. Et j'ai essayé de faire en sorte que la tension soit captée tout le temps, qu'il y ait une tension permanente, en tout cas, dans le film.
Alors, vous faites un film très photographique. C'est le sud de la France. C'est filmé comme une ville américaine, avec toutes les références cinématographiques que ça convoque, évidemment, chez le téléspectateur. Il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup d'orange, il y a des lumières qui font tâche. Voilà, ça c'était voulu justement de plonger dans cette cinématographie là.
Totalement. Ben moi j'ai grandi en fait là où j'ai tourné, donc je connais.
C'est où?
C'est Toulon.
Toulon.
Mais on donne pas le nom de la ville
non.
En fait, c'est jamais cité, ça reste assez mystérieux. Et oui, j'avais envie, si je retournais là-bas, faire de ma ville d'enfance un terrain de jeu cinématographique. J'avais envie de la pousser vers ce que moi je ressens et ce que j'aime. Là, on avait en référence, on avait un photographe qui s'appelle Philippe Lorca di Corsia, qui travaille beaucoup les images orangées, le sodium. Et j'avais envie d'un truc chaud. Et voilà.
Et là, la photo est signée Pierre Babouin et elle est magnifique. Il fallait glisser très habilement du présent au passé, du passé au présent. Il fallait insérer ces flashbacks dans le récit. Alors ça peut être un exercice très lourd et très artificiel. Vous le faites avec beaucoup de naturel, c'est-à-dire que vous prenez les flashbacks comme des réminiscences et de manière très psychanalytique, c'est à chaque fois des objets, des visions qui vous permettent de basculer de l'un à l'autre.
Oui, c'est marrant, c'est une manière très psychologisante d'aborder le Jonas, enfin le film, alors que moi, ça me paraissait presque naturel en fait. Déjà, il fallait que je traite le passé et le présent de la même manière. Je voulais pas du tout un passé avec une couleur bleue ou au contraire un présent avec une couleur bleue et froide et un passé chaud. Je voulais qu'il y ait une cohérence, que tout soit homogène dans l'image.
Alors que, par exemple, moi qui convoquais David Lynch tout à l'heure, David Lynch, lui, il s'amuse à créer des chocs, des ruptures, des moments où on ne comprend absolument plus. Vous faites tout l'inverse.
Oui.
Et quelque chose d'extrêmement doux.
Parce que j'avais envie aussi enfin, moi, je pensais beaucoup aux spectateurs du film en tournant le film et en le montant. Et voilà, c'est de toujours lui donner un début de réponse, une clé, une piste, une fausse piste. Il y a des fausses pistes aussi dans
beaucoup,
le film.
Beaucoup.
Voilà. Et de faire jaillir des fois la violence ou la tristesse. D'un coup, ça sort. Et puis après, le film redevient plus calme, plus posé. Et j'aime bien cette idée-là de tout le temps le mettre dans une situation où qu'est-ce qui va se passer? En gros, j'ai pas envie qu'il zappe, quoi.
La musique, la musique de Quand Jonas était jeune.
Nuit, tu me fais peur, nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans voir.
Les années 90, par petites touches. La Game Boy, la mort de Lady Di, les guignols de l'info, les grosses Jordan que vous aviez à vos pieds à l'époque, qui faisaient des silhouettes absolument ridicules, et que toute l'équipe a passé une heure à se demander si c'était des Reebok ou des Jordan. Vous voyez, ça nous a beaucoup occupés. Comment se replonger dans une époque d'avant sans la rendre grossière, sans la rendre caricaturale,
Juste en se servant d'éléments de la pop culture, en tout cas de notre mémoire commune.
Oui.
Et plutôt que de faire un film d'accessoiriste où on fait des reconstitutions partout, je préférais montrer un écran avec la mort de Lady Di et tout le monde se souvient de la mort de Lady Di, en tout cas ceux qui étaient nés à cette époque-là. Pareil pour les guignols, tout de suite ça ramène une époque, une Game Boy. Il suffit de faire un gros plan sur une Game Boy et on sait dans quelle époque on se trouve. Pas la peine d'en faire plus, parce qu'en faire plus, moi je pense que j'aurais pas suggéré en fait.
D'ailleurs, quand il y a un nouveau personnage qui surgit dans la deuxième moitié de l'histoire et qui dit à Jonas, non mais vous sortez d'où ? On peut plus fumer nulle part aujourd'hui. C'est exactement ça, non mais vous sortez d'où ? C'est-à-dire, revenez avec nous, revenez dans le présent. C'est vraiment l'histoire de ce film, c'est un retour vers le présent et un retour extrêmement difficile parce que le passé est marqué par un traumatisme.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est ma productrice Sandrine Brouwer qui dit qu'il a un élastique en fait qui le tient comme ça vers le passé, Jonas. Et à un moment, il faut qu'il lâche cet élastique et il va lâcher. En tout cas, je pense que c'est important de dire que les gens, même si on dit qu'il y a beaucoup de mystères dans le film et pas mal de rebondissements et tout, il y a les réponses à la fin. C'est-à-dire qu'il y a pas de... Voilà, l'histoire, elle est bouclée.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que...
Je pense, hein.
Non, mais c'est-à-dire que vraiment, vous ramenez votre personnage et nous avec dans le présent. C'est vraiment ça l'histoire de ce film. C'est aussi un roman initiatique, un premier amour homosexuel.
Ah, je me demandais un truc avec mon pote, c'est... Comment vous faites pour baiser? Parce qu'il doit avoir une petite bite, hein, c'est... Vas-y, passe-moi une clope.
Tu vas me taxer tous les jours?
Quoi, ça te pose un problème? Quoi? Je te préviens tout de suite, arrête de me regarder comme ça.
Eh, c'est bon, t'as eu ta clope, tu te casses maintenant.
C'est à moi que tu parles comme ça? Mais t'es qui pour me parler comme ça? T'es rien. T'es une sous-merde. T'es un petit PD, c'est toi qui te casses. Cassez-vous, mec. Arrête de me... Arrête de...
Casse-toi.
Quoi, casse-toi? Quoi, casse-toi? On me parle pas comme ça. Et toi, arrête de me regarder comme ça avec ta tête de cul.
Voilà, premier amour homosexuel. Ça se passe dans un collège, ça se passe dans une petite ville de province, ça se passe tout ça, etc. Mais c'est quand même une vision extrêmement dure et extrême. Bah oui, c'est quand même l'histoire d'un premier amour homosexuel qui est intimement lié à un drame et à un traumatisme d'une violence extrême.
Ouais, en fait, c'est pas lié pour moi parce que sinon la morale, en tout cas le message serait atroce. C'est
Et pourtant, c'est l'histoire de ce personnage.
Oui, mais c'est avant tout une histoire d'amour. Oui. Après, là, on a passé un extrait où, en effet, ils se font emmerder par un camarade de classe.
On passe les extraits qu'on peut, mon cher, parce qu'il ne faut pas ruiner le suspense de ce film.
Non, mais vous êtes super.
Donc, il faut l'aborder avec beaucoup de délicatesse, sinon, on casse tout.
Je vous remercie infiniment de prendre toutes ces précautions. Vraiment, c'est très cool. Mais voilà, il y a cette séquence-là. Oui. Enfin, il y a ce type qui les ennuie. Il y a deux séquences dans le film. Mm. Mais après, ce n'est pas un enjeu. C'est une des facettes qui explique ce qu'a vécu Jonas. Mais voilà, ce n'est pas... Même l'homosexualité, pour moi, je l'ai traité dès le scénario de manière très décomplexée, en fait.
Oui.
Il n'y a pas de... Voilà, il y a lui qui les embête un peu, et encore, on sent qu'il est plus frustré qu'autre chose, il n'est pas du tout homophobe, et voilà. Et pareil, avec les parents et tout, avec Horatica, Marie de Narno, je voulais que ce soit quelque chose de très décomplexé et normal, et que ce soit pas un enjeu, en fait, pour rendre le message ou l'histoire assez universelle.
Absolument, c'est pour ça que j'ai gardé cette question, en fait, pour la fin, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est pas forcément un film là-dessus, c'est pas un manifeste,
non.
Absolument pas un manifeste. Elle aurait pu, cette histoire, se placer dans toutes sortes d'histoires d'amour, qui soient pas une histoire d'amour homosexuel.
Ah, tout à fait. Ouais, je suis hyper d'accord avec vous et ça me fait... Voilà.
Alors, il y a le mot Game Boy. Je pense que le mot Game Boy et même cet objet, on ne le reverra plus du tout. Pareil, après avoir vu Jonas, d'abord, vous faites de la Game Boy un doudou, un lien vers le passé, un objet de substitution. Et ça, c'est quand même vraiment l'histoire d'une génération,
oui.
Quoi, d'avoir
vous
le...
Vous avez joué à la Game Boy?
Non, mais moi, je suis une fille et dans Game Boy, il y a Boy. Et là aussi, il y a un vrai jeu de mots sur Game Boy parce que dans Game Boy, il y a jeu et il y a garçon, il y a tout film en fait.
Bah voilà, et en plus pour être très très honnête, le film s'appelait Game Boy avant de s'appeler Jonas.
C'est vrai ?
Ouais, tout à fait.
Et vous n'avez pas eu le droit ?
Non.
Et résultat, vous allez chercher une référence biblique.
Que je ne connais même pas. Voilà, donc c'est absolument, c'est désespérant d'inculture.
Merci beaucoup Christophe.
Merci à vous,
Christophe Charrier.
Merci.
Donc Jonas est à voir ce soir sur Arte en première partie de soirée. Merci aussi à toute l'équipe, François Audouin, Cécile Perrin, Redouane Tella et Sacha Trop qui étaient à la technique ce matin. Le cadeau, c'est un très très beau coffret Léo Ferré. Mais si je vous le disais au début de l'émission, vous auriez reconnu la voix de ce chanteur mort. Voilà.